자, 오늘 우리 영혼에 주시는 하나님의 말씀은
La parole de Dieu se trouve dans le Psaume chapitre 20 verset chapitre 101 à 5. Lisons à tour de rôle. Pour le dernier verset, lisons tous ensemble. Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations à sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple et le troupeau sont pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bienveillance dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Prions parce que le Saint-Esprit s'adresse à nous aujourd'hui. Prions pour l'évêque Dongui pour qu'il soit rempli de l'inspiration, de la connaissance de la parole. Prions pour que nos âmes soient remplies du Saint-Esprit aussi. Dieu le Père,
Dieu
nous a commandé ce jour saint que toutes les âmes qui y ont obéi soient bénies, que leurs âmes soient bénies vraiment et prospèrent. Ou un lèvre de ton serviteur, bénis-le pour qu'il puisse leur annoncer ta volonté. Je prie au nom de Jésus. Nous sommes au Seigneur. Dieu est le Créateur, il a fait exister toutes choses. Il a fait respirer toutes choses et il a fait en sorte que toutes choses puissent avoir une relation éternelle avec celui qui existe réellement. La chair est temporaire, n'est pas éternelle, mais l'âme est éternelle. C'est pourquoi l'âme vit dans les cieux. C'est l'homme s'est corrompu et a trahi Dieu. Mais Dieu cherche ces hommes et les recherche encore. En création du sang, il les recherche et les recherche encore. C'est ce qu'on appelle l'évangile. Celui qui entend l'évangile et celui qui écoute sa voix, il faut écouter le son de son sang. La parole, c'est le rose, c'est une parole vêtue du sang de Dieu. Comment l'on peut vivre en quittant le Seigneur? Dieu est le maître qui nous a créés. Nos âmes appartiennent au Seigneur pour l'éternité. Il faut que nous devenions ses possessions pour obtenir la vie ainsi que la bénédiction. Dieu a abandonné sa vie précieuse pour ses possessions. Pour que nous devenions ses possessions, il a versé son sang. C'est pourquoi il fallait au-devant de Dieu, de tout notre cœur, toute notre volonté, tout notre corps et toute notre vie. Dieu est notre Père et l'amour éternel, mon âme, allant vers lui.
Amen.
Dieu est le Créateur. Nous connaissons très bien la signification du mot Créateur. C'est lui qui a créé toutes choses de par lui-même. Par exemple, on fait des bases de par nous-mêmes. C'est Dieu qui a créé toutes choses, c'est la réalité, c'est la foi. Ce n'est pas une doctrine. Et en fait, pour faire des vases, on sélectionne une bonne qualité, du sol de bonne qualité. Et on met ce sol dans des eaux pures. Et on les fait couler sur les eaux, dans les eaux. Et ensuite, on marche sur ces poussières du sol. Ensuite, on les refroidit. Et ensuite, on utilise ces poussières du sol pour faire des vases de divers usages. C'est un usage vil ou précieux. Comme vous le savez très bien, il y a un vase de usage très noble à l'époque de Goryeo. Donc, en fait, un seul coup, on fait environ 200 vases pendant un an environ. Celui qui fait des vases, lui, en fait, il a les longs cheveux et des barbes longues, comme un grand médiateur et profond. Mais après avoir fait des vases, il les casse. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il a accordé beaucoup de soins à ces vases pour qu'elles aient une belle forme. Et il les a cuits, fait cuire. Mais si ces vases ne lui plaisent pas, il les casse sans aucune hésitation. Mais à nos yeux, nous, en fait, nous ne sommes pas spécialistes. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas voir la différence entre ces vases. Mais le spécialiste, lui, en fait, il casse en fait, la plupart des vases qu'il a faites. Et il lui reste seulement une dizaine de vases. Donc, en fait, environ 200 vases ont été cassés. Donc, nous, en fait, nous voulons avoir une de ces vases cassées et, parce qu'elles sont précieuses à nos yeux. Parce que cette vase coûte environ 10 millions de won. Donc, c'est vraiment précieux et coûte cher. Donc, alors, j'ai touché des vases cassés et j'ai voulu un peu comment le recomposer, ces vases cassés, pour les vendre, pour les revendre. Mais voilà, lui, en fait, l'expert, lui, en fait, il espère seulement avoir une dizaine de vases. Il casse les vases en mauvaise forme devant les hommes, devant les autres. Alors, c'est une tactique de sa part. Mais alors, s'il y a trop de vases, en fait, ces vases ne peuvent pas être chers. Mais lui, en fait, il casse les vases qui ne lui plaisent pas. Et en cassant environ 200 vases, lui, en fait, il préfère avoir une minorité de vases de bonne qualité pour qu'elles soient vendues à un prix très cher, important. Donc, en fait, c'est sa décision. Parce que s'il a de nombreuses vases à vendre, et il peut les vendre, mais il ne peut pas les vendre avec un coût important. Donc, alors environ au début, une vase coûtait seulement 20 000 won. Mais voilà, si il utilise cette tactique, une vase peut être vendue avec un prix de 10 millions de won en fait. Donc, c'est une stratégie commerciale. Donc, il peut vendre ses vases de bonne qualité à une minorité de consommateurs. Et ces vases deviennent des produits très précieux et rares. Donc, voilà, il agit à son gré. La Bible parle de ça. Il y a des vases de bon usage, d'un usage vil et d'un usage noble. Et c'est le maître qui décide l'usage de ces vases, parce que c'est son droit. De la même manière, Dieu nous a créés, nous tous. Il a créé les choses célestes et les choses terrestres. Il a créé donc toutes choses. Voilà donc. Donc une telle parabole se trouve dans la Bible. Les hommes sont des formes selon la Genèse. Les hommes ont été créés à la ressemblance de l'image de Dieu. Cela signifie que les hommes sont des copies. Ils ne sont pas des originaux. Donc, ils sont des copies de ce qui se trouve dans les cieux. Mais ces hommes qui ont été créés sur cette terre pourraient vivre dans les cieux parce que c'est la volonté de Dieu le Père. C'est son plan, c'est son projet, c'est sa volonté. Donc, les hommes qui ont été créés à la semblance de son image, pour que ces choses et les hommes puissent vivre éternellement dans les cieux, Dieu a établi un plan. Alors, il a créé donc les hommes. Le premier homme créé par lui, c'est Adam. Il y a donc trois significations du mot Adam. Chacun de nous possède un nom. Alors, le premier homme créé par lui a été appelé Adam. Dieu a créé l'homme et la femme avec la poussière du sol. Il y a donc deux hommes. Comme en fait un caractère chinois, il y a un mot in qui signifie l'homme. Et donc il y a Dubar qui invente ce caractère. De la même manière, il y a eu des hommes et des femmes. Tous ces hommes et femmes ont été appelés des êtres humains. Et alors là, qu'est-ce qu'il a fait à travers ces hommes et femmes? Il leur a commandé de se multiplier sur cette terre. Il leur a commandé d'enfanter pour se multiplier sur la terre et pour remplir enfin la terre. Et donc un homme et une femme enfantent, d'où la naissance de bébé. C'est ainsi que la terre a été remplie d'hommes. Aujourd'hui,
Donc,
Aujourd'hui, en fait, le monde compte environ 7 milliards d'habitants. Et à l'époque, alors on peut imaginer qu'environ 10 milliards d'hommes ont rempli la terre. Alors les hommes se sont reproduits et se sont améliorés aussi avec le temps. C'est pourquoi parce qu'il y a des rencontres entre hommes et femmes. Et alors, en fait, les hommes se sont améliorés parce que des hommes intellectuels se marient. Donc aujourd'hui, l'intelligence humaine a augmenté parce qu'il y a beaucoup de couples intelligents. Donc, en fait, parmi une multitude d'hommes, un seul a été choisi par Dieu. Dieu connaît la qualité des hommes, le cœur des hommes. Par exemple, David lui a plu. Donc, parmi une grande multitude d'hommes, un seul a été choisi par Dieu parce que cet homme lui a plu. Il s'appelle Adam. Et alors, cet homme a été emmené donc dans le jardin d'Éden par Adam et Dieu lui a insufflé un souffle de vie. Alors, il est devenu un être vivant. Genèse chapitre 2, verset 7. Alors, en fait, le mot Adam signifie un être vivant, un hébreu. Le mot esprit, est appelé Elohim en hébreu. Dieu aussi, Elohim, démon aussi, hein, Elohim, ange aussi, parce que l'homme aussi, hein, parce que Dieu, démon, ange, homme possède tous l'esprit. Adam est devenu un être vivant, c'est ce que c'est. Le nom Adam a une telle signification. Dieu a créé donc des hommes et des femmes et il leur a donné le nom être humain. Et parmi ces hommes-là, Adam a été choisi et il est devenu être vivant. Il y a eu déjà une grande multitude d'hommes qui respiraient, mais seul Adam a été choisi et Dieu lui a insufflé un souffle de vie. Mais Adam a déjà respiré, en fait, hein, avant d'obtenir l'esprit. Mais il est devenu un être vivant obtenant un esprit. Hein. Donc, ce qu'il a obtenu dans le jardin d'Adam, ce n'est pas une respiration. Dieu nous a fait respirer par le Saint-Esprit. On est devenu donc l'homme spirituel parce qu'on a obtenu un souffle de vie. Donc Adam a été choisi par Dieu le Père. Il a créé aussi Ève, femme d'Adam. Donc, il a obtenu une descendance. Genèse 6, verset 2, on parle de la descendance de l'homme, mais il y a eu les filles d'hommes. Mais ces hommes ont été créés par la poussière du sol, mais ils n'ont pas d'esprit. Seul Adam a obtenu l'esprit. Mais les autres sont devenus des Néphilim parce qu'ils ont été exclus, ils ont été disqualifiés. Donc ils n'avaient pas d'esprit. Donc, quel était le sort de ces Néphilim? Ils ont péri par une grande inondation. Pendant 40 jours, il pleuvait sur cette terre. Donc, tous ces Néphilim ont péri pendant cette inondation. Parce que Dieu voulait empêcher l'unité, l'union entre les hommes dénués d'esprit et les hommes ayant l'esprit. Parce que si un homme dénué de l'esprit et un autre homme ayant l'esprit se marie et enfante, obtient un enfant, cet enfant ne peut pas avoir d'esprit. Donc, cet enfant possède seulement la chair, non pas l'esprit. Ce n'est pas le projet de Dieu initial. C'est pourquoi Dieu a décidé de faire périr tous ces Néphilim dénués de l'esprit avec une grande inondation pour faire exister seulement les hommes ayant l'esprit. Adam et Ève donc, avaient trois fils, trois enfants. Ils étaient tous des esprits vivants. Et ils marchaient avec Dieu. C'est ainsi que leurs esprits ont existé. Et Dieu leur a accordé sa grâce. Et à travers la famille de Noé, la terre a été remplie aussi d'hommes. Il y a eu un seul qui a été choisi par une grande multitude d'hommes, c'était Adam. Et après l'inondation qui a fait périr tous les Néphilim, la famille Noé a été utilisée. Alors, beaucoup d'hommes ont rempli la terre. Donc, il y a eu beaucoup d'hommes qui vivaient sur cette terre. Et parmi ces hommes, un seul a été choisi. Il s'appelait Abraham. Et alors Abraham a obtenu une grande descendance parce qu'il a été béni. Et alors son nom initial était Abraham. Ce n'était pas Abraham. Abraham signifiait la grandeur. Cela signifiait qu'il était un seul, il était unique. Mais son nom a été changé parce que Dieu a décidé de faire de lui un grand ancêtre de la foi. À l'époque, personne connaissait Dieu. Seul Abraham le connaissait parce qu'il était ancêtre de la foi. Pourquoi il est devenu l'ancêtre de la foi? Abraham, lorsqu'il a demeuré dans son pays natal, qui est l'Irak d'aujourd'hui, à l'époque, il y a eu un grand pays, Babylone, où la civilisation s'est bien développée, la culture s'est bien développée, l'écriture s'est bien développée. Donc, dans cette ville-là, dans ce pays, il y a eu beaucoup de progrès technologiques et scientifiques. C'est pour laquelle la raison humaine s'est bien développée. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de philosophies, beaucoup d'affirmations humaines, beaucoup d'arguments philosophiques avec lesquels les hommes ont pu avoir leur propre Dieu. Et donc, il y a eu beaucoup d'idoles. Par exemple, dans une famille, il y a 5 membres et chaque membre de cette famille a eu une idole. Donc, il y a 5 idoles dans cette famille et leurs parents aussi possédaient des idoles. Donc, il y a des dizaines d'idoles dans une famille à l'époque. Et au total, dans ce pays natal, il y a eu une énormité de dieux, d'idoles en fait. Et donc, il y a eu des commerçants qui vendaient des idoles. Il y a eu des usines qui fabriquaient des idoles avec du fer, avec de la pierre, par exemple. Donc, si on a décidé de fabriquer des idoles, ces idoles restaient toujours. Ils ne bougeaient pas parce qu'ils étaient des matériels. Alors, quelle était leur foi? Les idoles ne peuvent pas écouter parce qu'ils n'avaient pas la vie. Parce que les idoles sont morts. Parce qu'ils donc, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas écouter, ils ne peuvent pas suer. Mais on a mis devant soi des idoles. Ensuite, ils ont fait des efforts considérables pour être bénis pour la prospérité de nos enfants. Et on fait n'importe quoi, on dit n'importe quelle chose devant cette idole. Alors, ces idoles sont immobiles, ils ne bougent pas. Mais en fait, alors pendant 100 jours, on prie, on fait des efforts innombrables. Ensuite, on met des plats devant ces idoles. Et après ce rite, on mange ces plats nous-mêmes. On agit, on se comporte ainsi avec nos convictions humaines. C'est ce qu'on appelle la superstition. Et par exemple, on s'attache ainsi au mysticisme parce que on fait des efforts personnels selon nos convictions humaines. C'est ça la religion. Donc, une religion possède des convictions, des doctrines. Donc, si on ajoute au mysticisme des doctrines, on peut avoir une religion. À l'époque, il y a eu beaucoup d'idolâtrie. Mais ces idoles ne peuvent pas parler, ne peuvent pas écouter. Et les idoles ne peuvent pas suer non plus pour nous exaucer. Mais malgré cela, il y a eu beaucoup d'idolâtres. Aujourd'hui aussi, même si on vient à l'église, et même si on écoute beaucoup de sermons, on n'a pas encore bien compris que le christianisme n'est pas une religion. Alors, par exemple, on participe à la dédication, on donne des offrandes de dédication à Dieu, mais voilà, cet acte ne fait pas partie des efforts personnels basés sur une conviction humaine. Si on fait ce qu'on veut faire, et selon notre propre justice, on ne peut qu'aller en enfer. Donc, il y a beaucoup d'âmes qui ont décidé de se suicider, de mourir. Si vous l'avez fait, faites-le et allez en enfer. Le christianisme n'est pas basé sur une conviction humaine. Le christianisme n'est pas une religion basée sur une conviction humaine. Mais aux yeux de Dieu, Abraham était différent des autres. Il n'était pas un idolâtre. Abraham avait une autre notion de Dieu que celle des autres. Et selon Abraham, alors Abraham voulait croire en un Dieu qui pouvait écouter la voix de son âme, le cri de son âme. C'était ça la pensée d'Abraham. Matthieu 6, verset 8. Votre Dieu, votre Dieu connaît tous vos besoins personnels. Notre Dieu peut écouter nos cris. Il prête l'oreille à nos cris. Deuxièmement, selon Abraham, Dieu doit être celui qui est au-dessus de la capacité de l'homme. Par exemple, Dieu peut voler, Dieu peut vivre dans l'eau, même si l'homme ne peut pas le faire. L'homme a besoin du temps, mais Dieu peut transcender le temps et l'espace parce qu'il est tout puissant. C'était ça l'onction de Dieu d'Abraham. À l'époque d'Abraham, il y a eu beaucoup d'idolâtres. Ces idolâtres ont inventé leur propre Dieu et ils les servaient selon leur propre pensée. Et troisièmement, quelle était la troisième notion de Dieu d'Abraham qui est la plus importante? Si c'est un Dieu, c'est un vrai Dieu, ce Dieu doit... Alors, le Dieu que Abraham connaissait et voulait, c'était un Dieu qui pouvait lui donner des ordres, utiliser. Par exemple, Dieu devait être capable d'utiliser en tant que maître. Donc, le Dieu en qui Abraham a cru devait être son maître. Susceptible de lui donner des ordres. Par exemple, moi, en fait, j'ai cette serviette que je peux utiliser à mon gré parce que je suis son maître. Je suis son possesseur. Voilà, c'est ça la troisième notion de Dieu d'Abraham. Donc, c'était son argument, en fait. C'était son affirmation. Alors, ces trois notions de Dieu ont attiré l'attention de Dieu, en fait. La première notion d'Abraham, c'était quoi, en fait? Vous avez déjà oublié. La première notion, c'est quoi? C'est celui qui doit écouter la situation de l'homme. Dieu doit écouter non seulement la voix du corps, mais aussi la voix de l'âme, de l'homme. Par exemple, le peuple d'Israël a beaucoup souffert en Égypte, mais ils ont été exaucés, en fait. Alors, Dieu a écouté, en fait, la lamentation des Israélites souffrant en Égypte, répéter, si c'est un vrai Dieu, si c'est un vrai Dieu qui peut me sauver, il doit écouter ma voix, mon cri. Et ensuite, Dieu doit être le tout puissant. Il doit donc savoir travailler et suer. C'est la raison pour laquelle la Bible dit il faut faire travailler Dieu. Jésus a beaucoup prié pour faire travailler Dieu le Père. Et ensuite, il doit être le Tout-Puissant. Mais ce n'est pas suffisant du tout. Ce qui est le plus important, c'est que Dieu doit être celui qui peut devenir notre maître. C'est-à-dire que Dieu doit me donner des ordres ou m'adresser ses félicitations et il doit m'utiliser en tant que mon maître. Alors, si nous sommes des idolâtres, nous nous contentons de faire des efforts personnels selon notre conviction humaine, mais nous connaissons vraiment le vrai Dieu et nous ne pouvons que prier, nous ne pouvons qu'adorer ce Dieu par obéissance, parce qu'il est notre maître. Donc, en ce qui concerne le culte, Dieu nous a créé, commandé le jour saint, nous y avons obéi. Hein? C'est pourquoi il faut faire en sorte que nous devenions ses possessions. Nos âmes lui appartiennent, nos enfants lui appartiennent, nos descendants lui appartiennent aussi. Notre argent lui appartient aussi. Notre corps lui appartient aussi. Alors, Dieu nous stoppe, il faut qu'on s'arrête. Et si ôte de nous l'argent que nous possédons, nous ne pouvons que le perdre. C'est ainsi que notre Dieu, le Père, possède un droit absolu. Il est notre maître. Cela signifie qu'il est notre maître. On appelle Abba Père. Lui, en fait, il est notre tête, il est notre père, il est notre maître. Donc, on l'appelle Abba Père. Il est notre maître très très haut, très élevé. Il est notre maître, il est notre père. C'est pourquoi on appelle Dieu le Père. Cela signifie qu'il est notre maître. Il doit devenir notre maître. Il faut que nous devenions ses possessions parfaitement. Ces trois notions de Dieu, d'Abraham, ne s'accorde pas avec notre Dieu le Père. Ce terrain n'est pas un vrai Dieu. Donc, voilà la notion, les trois notions de Dieu d'Abraham sont devenues une constitution. Même le président d'un pays doit garder. Garder la constitution du pays. Sinon, ce présent ne peut qu'être destitué. Qu'est-ce que la justice de Dieu? Donc, selon Dieu, c'est la foi qui est la justice. Donc, est-ce qu'on a la justice ou pas? Est-ce qu'on a la foi ou pas? La foi d'Abraham a été comptée comme la justice. Donc, comprenez bien cette chose. Si vous allez en fait à la rue de Sejong, il y a une statue d'un maître. Alors, la statue d'une forme semblable se trouve aussi dans le quartier Kwanak. La foi d'Abraham a été comptée comme la justice. Alors, sur cette terre, il y a eu personne qui avait la justice, la foi, mais seule la foi d'Abraham a été reconnue de Dieu. Et cette foi-là a été reconnue et comptée comme la justice de Dieu. Et on peut être sauvé si on a la foi semblable à celle d'Abraham. Donc, l'apôtre Paul a dit plusieurs fois, notre foi doit être utilisé pour que nous puissions recevoir la bénédiction d'Abraham. Dieu nous demande de le connaître. Alors, le Père, le Fils doit en fait s'harmoniser, s'accorder. Il ne faut pas que vous serviez un Dieu inconnu, parce que si vous faites des efforts personnels en ne pas le connaissant, vous pouvez aller en enfer et vous ne pouvez pas sauver vos âmes. Alors, si nous sommes attachés à une religion, nous pouvons être dans la paix et nous pouvons cultiver notre caractère, mais nous ne pouvons pas aller en enfer. Nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. Nous ne pouvons pas avoir un port avec notre Dieu le Père. Sans la foi, il faut que Dieu écoute le cri de nos corps, le cri de nos âmes. Il faut qu'il soit le Tout-Puissant et il faut qu'il soit notre Maître. Répétez, mon Dieu doit écouter mon cri. Mon Dieu doit être le Tout-Puissant et mon Dieu est mon Maître. Ça, c'est la foi d'Abraham. C'est pourquoi il est dit dans la Bible, Dieu s'est manifesté et apparu seulement en tant que Tout-Puissant. Alors, de quelle forme? Comment Dieu est apparu devant Abraham? Il est apparu en tant que Tout-Puissant devant Abraham et il lui a commandé de quitter son pays natal en quittant ses parents. Et alors, Abraham a agi selon ses instructions de son maître. Parce que Abraham a reconnu que ce Dieu était son maître, qui peut l'utiliser à son gré. C'est pourquoi Abraham a suivi son maître. Et alors Dieu lui a dit, « Toi es une source de bénédiction. » Alors celui qui possède la foi, une foi semblable à la tienne, peut être béni et sauvé. Mais si celui qui te maudit et te méprise sera maudit, celui qui te renie sera maudit. Celui qui renie la foi d'Abraham ne peut qu'être maudit, c'est ce qui est dit dans la Genèse. C'est pourquoi, si on fait des efforts considérables et personnels à notre gré, on ne peut pas être béni, donc il faut que nous possédions une bénédiction, une foi qui plaît à Dieu. Dieu est notre maître. Il est notre maître. Vous connaissez Ananias et Sapphira. Alors, ils ont vendu leur terrain et ils ont gagné environ 200 millions de won. Et alors, ils ont décidé de garder la moitié de cette somme d'argent et ils ont décidé de donner seulement la moitié à Dieu le Père. À ce moment-là, quelle était la voix du Saint-Esprit qui s'adressait à eux? Le Saint-Esprit a dit à Ananias, avant que ce terrain soit vendu, il t'appartenait, n'est-ce pas? Alors, tu pouvais utiliser ce terrain à ton gré. Que ce soit la valeur de ce terrain, il t'appartenait, et tu pouvais utiliser ce terrain à ton gré. Après l'avoir vendu, tu peux garder tout cet argent, n'est-ce pas? Mais pourquoi tu as gardé la moitié de cet argent et pour donner à Dieu seulement la moitié? C'est ainsi que tu as trompé Dieu. Lorsque ce terrain n'est pas encore vendu, tu as décidé de donner ce terrain à Dieu. Et après avoir vendu ce terrain, tu dois donner l'argent obtenu en vendant ce terrain à Dieu. Mais si ce terrain t'appartient entièrement, ce n'est pas la peine de le donner à Dieu. Mais en donnant seulement la moitié du prix de ce terrain, tu as trompé Dieu, tu t'es moqué de Dieu. Tu peux utiliser ce terrain à ton gré. Alors, après avoir vendu ce terrain, Et ce terrain toujours, est toujours ta possession. Voilà son âme a quitté. Le nom de sa femme était Sapphira. Alors son mari est mort en fait, parce qu'après avoir été approché par le Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit lui a demandé, alors c'est ça l'argent que tu as obtenu en vendant ce terrain? Sapphira a répondu, oui. Alors le Saint-Esprit lui a dit, tu as trompé le Saint-Esprit en se mettant d'accord avec ton mari. De sens que Sapphira est mort aussi, hein, parce que son âme l'a quitté. Mais bien aimé, la dîme appartient à Dieu. C'est ce que vous dites à votre bouche, parce que c'est ce qui est dédié dans la Bible. Mais vous ne pensez pas que la dîme appartenait à Dieu. Alors, si vous n'avez pas d'argent, il faut utiliser la dîme, parce que vous ne pensez pas que la dîme appartient à Dieu. Mais la Bible nous a dit qu'il faut donner la dîme à Dieu. Qu'est-ce que l'Église? L'Église n'est pas une association. L'Église a été rachetée par le sang de Dieu. Vous dites que j'ai donné la dîme à Dieu, mais en fait, vous avez donné vos dîmes à une association, n'est-ce pas? Donc, vous n'avez pas donné la dîme à Dieu. Parce que l'Église a été achetée par le sang de Dieu, donc il faut que vous donniez la dîme à cette Église pour la donner à Dieu. Si vous utilisez votre argent à votre gré, vous ne pouvez pas avoir une relation avec Dieu le Père. Avec Dieu le Père. C'est ce qu'ont fait Ananias et Sapphira. Et ils ont expiré, hein, enfin, parce qu'ils ont été reprochés par Dieu. Si Dieu décide d'enlever de nous les âmes, ce soir, on ne peut que mourir ce soir. Par exemple, la Bible dit de ceux qui voulaient fêter et se reposer après avoir rempli leur grenier. Mais ils ne pouvaient que quitter cette terre le soir même, parce que c'est la volonté de Dieu. Sur cette terre, nous existons, nous vivons, mais nous entrerons un jour dans les cieux pour être traités de la même manière que le Fils de Dieu. Pour cela, Dieu a traversé beaucoup de processus en créant même l'univers et en créant la terre, en créant l'humanité et en remplissant la terre d'hommes et en choisissant un homme, en choisissant un autre. Par exemple, il a choisi Abraham. Et alors, grâce à Abraham, on a pu apprendre ce qu'est la foi. C'est pourquoi on a pu avoir la foi et on a pu donc avoir le Messie qui est Jésus-Christ, qui est sorti de la semence d'Abraham, de sa descendance en fait. Alors en fin de compte, Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans environ, et maintenant nous existons sur cette terre aujourd'hui. Donc il y a eu des centaines de milliards d'hommes sur cette terre, et maintenant nous existons. Nous avons été créés par la poussière des sols, Mais nous pouvons vivre éternellement dans le royaume des cieux. Grâce à la grâce de Dieu, en fait, Jésus est un être humain, mais il est mort, il a été ressuscité parmi les morts par Dieu le Père. Et il a été enlevé dans les cieux devant environ 500 hommes pour être amené dans les cieux d'une telle manière. Alors, pour que nous devenions précieux aux yeux de Dieu, Et ce dernier a traversé beaucoup de processus. Il a fait beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Et il a réalisé de grands des travaux considérables, en fait. Nous ne sommes pas venus à l'église par hasard. Nous ne sommes pas venus à l'église grâce à un évangéliste inconnu. Il y a eu de grands efforts considérables qui ont été engagés par Dieu le Père. Et alors, il a choisi Abraham, il a choisi Abraham. C'est ainsi qu'il a fait son travail à travers les hommes ayant la foi qui lui plaisait. Donc, en fait, la foi d'Abraham a été utilisée. Et pour que nous puissions avoir une telle foi aussi. Donc, c'est ça la foi étroite par laquelle nous devons passer absolument pour aller au-devant de Dieu. C'est un miracle, en fait. C'est un terme du monde. Alors, si tu utilises un terme du monde, c'est un miracle. C'est un hasard, en fait. Mais devant aux yeux de Dieu, en fait, c'est un grand travail. C'est une grande œuvre, en fait, de sa part. Mais si vous dites que je ne suis pas la possession de Dieu, c'est fini. Dites Amen à voix haute si vous croyez que vous êtes la possession de Dieu. Si vous êtes ses possessions, dites Amen à une voix plus élevée. Vous, les chorales, dites Amen si vous êtes sa possession. Si vous n'êtes pas la possession de Dieu, dites Amen aussi. Et c'est catastrophique si vous n'êtes pas ses possessions. Dieu m'a créé et c'est pourquoi je lui appartiens. Répétez, Dieu m'a créé et alors je lui appartiens. Trois fois. Dieu m'a créé et je lui appartiens donc. Dieu m'a créé, alors je lui appartiens. Vous donnez les offrandes de dédication, vous faites un service bénévole à l'église. Et certains ont fait des sacrifices considérables. Certains en ont fait peu. Mais avec le temps, on devient mécontent. Et alors, on a fait des choses considérables à l'église, mais avec le temps, on évolue et on change. On se corrompt. C'est parce qu'on était en religieux. On était en fait dans la religion, en fait. On n'était pas dans la foi. On était très occupés. On a fait beaucoup de choses à l'église. Mais on le fait parce que je lui appartiens, parce que c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Par exemple, Dieu a demandé à Abraham de donner son fils Isaac qu'il a obtenu à 100 ans. Et Abraham ne s'est pas plaint contre cet ordre. Et il a obéi tout simplement au commandement de Dieu. Mais vous, en fait, est-ce que vous agissez comme Abraham? Il faut que vous deveniez la possession de Dieu, que ce soit la réaction des autres. Que ce soit le comportement des autres vis-à-vis de Dieu, vous devez absolument obéir à Dieu le Père parce que vous êtes ses possessions. Dites à répéter à 10 fois, je suis la possession de Dieu. J'appartiens au Seigneur, j'appartiens au Seigneur, j'appartiens au Seigneur. À une voix plus élevée, à une voix plus élevée, je suis sa possession. Je lui appartiens. Il est mon maître. 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 Il est mon Seigneur. Il est mon Dieu. Il est mon Seigneur. Il est mon maître. Il est mon maître le plus élevé, hein, le plus haut. Levez-vous. Vous avez écouté un sermon, le sermon le plus important que vous ne devez absolument pas rater. Fermez vos yeux. C'est le diable qui renie son identité. Ce sont les démons qui nous entravent. Il faut que vous chassiez les démons qui sont en vous. Il faut que vous chassiez les esprits de séduction qui vous trompent, qui mentent à vous. Il faut chasser les démons qui sont en vous. Seul Dieu est mon maître. Si Dieu vous rend malade, acceptez-le. Prions pour que Dieu puisse vous utiliser à son gré. Confirmez que vous appartenez à Dieu. Confessez, confirmez vous-même que vous êtes ses possessions. Vos âmes, vos corps lui appartiennent. Vos enfants, votre mari, votre femme lui appartiennent. Prions pour que tous les membres de votre famille appartiennent à Dieu.